On va étudier un certain nombre de thèmes qui apparaissent au début de la paracha, et pour ça, il faudra nous référer au dernier verset de la paracha précédente. Mais avant cela, je voudrais, au début, étudier une des questions qui se trouve dans le corps de la paracha, parce que je crains qu'après on n'aurait pas le temps d'y arriver. Alors vous allez prendre le texte, non pas tout au début de la paracha, mais je vais vous dire à quel chapitre. Je vais le prendre au chapitre 6, verset 13. Chapitre 6, verset 13. Je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit dans cette première étude. Vous remarquerez dans l'étude de la Torah qu'il y a souvent un rappel des dénombrements d'Israël. Le dénombrement, c'est-à-dire de savoir à la fois, c'est un thème que nous étudions d'autre part, mais je le dis très rapidement, de savoir à la fois s'il y a un nombre suffisant, un nombre minimum suffisant par tribu et dans l'ensemble, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait un nombre mispar en hébreu, minimum comme véhicule de la présence de la collectivité pour que la Shrina puisse résider sur Israël. Chaque fois qu'il y a donc nécessité d'un dénombrement, bien que d'une façon générale, la Torah, ça nous l'étudierons dans une autre, toute autre paracha, la Torah non seulement n'aime pas, mais interdit les dénombrements. Je vais en parler très très rapidement pour expliquer ça, puisque j'y ai fait allusion. Mais ceci dit, chaque fois qu'il arrive un événement dont le résultat est le risque d'une diminution du nombre des personnes en Israël par tribu et dans l'ensemble, et non seulement d'une diminution du nombre nécessaire, mais de la disparition de telle ou telle famille porteur d'un nom particulier de l'ensemble des noms d'Israël. Alors il est nécessaire de provoquer quand même un dénombrement. Et ce dénombrement se fait par le biais, d'ailleurs c'est resté un peu, ça a été repris par le mouvement sioniste à la fondation, par le Shekel, par le biais de l'offrande des Shekalim, permettait d'entretenir le culte des sacrifices d'expiation. Je reviens tout de suite après le... Parce que la Torah considère que le fait de dénombrer au niveau de la quantité un groupe humain, ça consiste à prendre le risque d'évacuer la dignité de la personne humaine individuelle. C'est un problème que, pour la première fois, j'ai étudié avec M. Meir, il avait étudié la notion de masse, tout ce vocabulaire moderne qui parle des ensembles humains en les objectivisant, en faisant des objets. La notion de masse, la notion de foule, la notion de... peu importe les substantifs, c'est l'idée qui est importante. Le fait de risquer d'évacuer la dignité géniale de la personne individuelle de chacun. C'est un des graves dangers de la civilisation moderne. Et d'ailleurs, M. Meir l'avait étudié, vous trouvez certainement cette étude dans son livre qui s'appelle L'existence juive, l'avait étudié à propos de la civilisation de Babel. Lorsqu'une civilisation humaine arrive à ce niveau de société fonctionnelle, où il y a ce risque, encore une fois, de perte de l'attention qu'il y a à apporter à l'individu. Je ne veux pas dire l'individu fait partie des nombres, mais la personne dans sa qualité propre. Et c'est un thème très important de la Torah. La Torah interdit. Mais lorsqu'il y a nécessité de faire le dénombrement, alors le dénombrement ne se fait pas en comptant les personnes, mais en comptant la moitié du shekel qui était donné. Et la Torah le définit comme étant le substitut d'expiation de chaque personne. Ish kofer nafsho. Pourquoi je sais pas pourquoi je suis allergique, mais ça m'arrive. Je sais pas tellement qui sont verts. Peu importe, ça va s'arranger. c'est que je vais vous décrire très brièvement ce que c'est qu'un dénombrement tel qu'on l'a compris dans le terme hébraïque. Mettez ça sur une chaise et que les gens se servent. Voilà, le fait de dénombrer un groupe humain, ça signifie en fin de compte de se poser la question combien d'individus sont dignes de porter l'identité de ce groupe. Or, comme nous sommes en cours d'histoire, chaque individu entre dans l'histoire de sa propre destinée comme un parmi les autres. Et puis nous avons tout le temps de la vie pour mériter le nom qui nous a été donné. Par conséquent, regardez le livre, ne me regardez pas moi. Et par conséquent, lorsque il y a un dénombrement, c'est une mise en jugement de chaque personne, de chaque individu qui se fait. Et c'est la raison pour laquelle le dénombrement est dangereux. J'espère qu'il est suffisamment clair. Après, je vous dirai comment on explique ça de manière un peu populiste, comme on a l'habitude de dire. Le sens est le même, mais la forme est différente. C'est-à-dire, le fait de dénombrer, c'est interpeller chacun qui fait partie d'un groupe. Le sortir de l'anonymat, de l'abri de l'anonymat du groupe, de la collectivité, interpeller à l'échelle individuelle et le faire passer en jugement, mérites-tu ce nom qu'on t'a donné de Israël ? Or, comme bien évidemment, avant l'achèvement de la destinée de chacun, on n'a pas atteint ce niveau de mérite, le fait d'être interpellé par ce jugement avant est dangereux. Est-ce que c'est clair l'idée ? Bon, on a l'habitude de dire... Il ne faut pas compter les gens parce que ça porte le mauvais œil. Bon, ces manières de s'exprimer, ce n'est pas faux dans l'intention de contenu des formules telles qu'elles étaient employées par les sages de l'Antiquité. Mais la manière dont les modernes utilisent ces formules en leur donnant un sens de superstition, il vaut mieux les évacuer et ne pas s'en servir. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en quoi même une formule comme le mauvais œil, Rainara en hébreu, correspond à une réalité. C'est pas le sujet de ce soir, mais simplement pour vous dire que, je prends cet exemple pour dire en général, lorsque vous avez une expression traditionnelle, populaire, familiale, surtout dans des communautés qui ont été obligées de changer de civilisation, et par conséquent qui n'ont pas été capables de traduire dans les termes exacts de la civilisation nouvelle ce qu'ils pensaient dans des termes exacts de la civilisation ancienne, et toutes les communautés juives, à travers leur histoire, ont dû changer de langue, changer de registre culturel. Vous avez tous connu cela dans chacune de vos communautés. Par exemple, combien de petits juifs en France emploient des termes de liturgie chrétienne pour parler de la bar mitzvah, pour parler de la brit mila. Je ne dirai pas les mots que c'est, mais vous les devinez. Et ça ne veut pas dire que... je veux dire que c'est en toute bonne foi. Alors en toute bonne foi, des gens, même les savants, enfin les érudits, des gens réputés érudits vous diront il ne faut pas compter parce que ça porte le mauvais œil. Mais ça a une allure tellement de superstition incompréhensible qu'il vaut mieux ne pas employer ces expressions. Est-ce que c'est clair ça ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais il me faudrait une heure pour vous expliquer, enfin au moins 5 minutes, c'est dommage. Et alors, simplement retenez cela, c'est que la Torah, elle, indique ce thème de façon bien plus précise. Le dénombrement, c'est le fait de faire passer en jugement les individus que l'on dénombre. Est-ce qu'ils équivalent déjà au mérite que signifie le nom qu'on est censé leur attribuer ? Est-ce que c'est clair l'idée ? Okay. Bon, alors ici nous avons un dénombrement, mais il y a une caractéristique, c'est qu'il s'arrête en plein milieu. Et c'est vraiment un des mystères de l'étude du texte biblique. Je vous avoue que j'ai souvent pris le temps de chercher des sources qui indiqueraient une explication. J'en ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si un jour quelqu'un trouve une source qui explique la question que j'ai posée, vous m'enverrez un télégramme. Mais entre-temps, je vous proposerai une manière de comprendre. Alors je vous indique, ça fait partie de la méthode d'étude, quand je ne vous cite pas de source, enfin quand je ne cite pas de source, c'est qu'il y en a une. Mais quand je vous dis que je n'ai pas de source, ne mélangez pas avec ce que je vous enseigne quand il y a des sources. Je vais essayer de clarifier ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je vous dis ? Je sais très bien que vous allez oublier, et vous allez faire comme s'il y a une source, mais en tout cas, c'est pas moi qui vous l'avais donné. Alors, vous allez prendre au chapitre 6, à partir du verset 13. Voilà, l'allergie est passée. Vaïdaber Hachem, le Moshe Vélaharon, c'est pendant les premières révélations que Dieu donne à Moïse et à Aaron, au moment où ils sont chargés d'aller trouver en Égypte et le Pharaon et ses serviteurs et les Hébreux pour leur annoncer que le temps est arrivé de mettre fin à l'exil d'Égypte. Donc nous sommes dans les premières péripéties de ces révélations. Alors, Vaïdaber Hachem, El Moshe Vélaharon, et Hachem a parlé à Moïse et à Aaron, Vaïtsavem El Bene Israël Vel Parao, et il les a recommandés, ordonnés, par rapport à Israël et au Pharaon, roi d'Égypte, Menahem Israël, les Otsi et Bene Israël, Meret Israël. L'objectif étant afin de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Vous voyez, ce verset est important d'autre part, premièrement par le fait qu'il va nous indiquer qu'il va y avoir deux obstacles à cette mission de Moïse et Aaron de mettre fin à l'exil d'Égypte. Le premier obstacle, regardez l'ordre du verset, vient des Hébreux eux-mêmes, des Bnei Israël eux-mêmes. Et Moïse est prescrit par Moïse et Aaron, est prescrit par Dieu, des efforts qu'il faut faire pour arriver à convaincre les Hébreux de sortir d'Égypte. Retenez bien ça. Comme nous sommes, comme je vous dis souvent, familiers à l'histoire, une fois qu'elle s'est passée, alors on a l'habitude d'imputer le mérite de la sortie d'Égypte à l'initiative des Hébreux eux-mêmes de mettre fin à l'histoire de l'exil d'Égypte. Il y a toujours une élite qui est une avant-garde et elle a existé, mais l'immense majorité de la nation des Hébreux en Égypte a résisté au message de Moïse et d'Aaron. C'est la raison pour laquelle il y a eu tellement de difficultés pour cette sortie d'Égypte. Le Midrash compare la fin d'un exil à l'accouchement. Et le Midrash explique qu'il y a trois manières de l'accouchement. Il y a l'accouchement sans douleur, il y a l'accouchement avec douleur, et il y a la césarienne. La césarienne, c'est l'intervention du César, c'est-à-dire du Hitler du temps. C'est clair ce que je dis. Effectivement, à chaque fin d'exil, on s'aperçoit que c'est un accouchement, cette sortie d'exil. Le peuple d'Israël sort de la civilisation humaine de ce temps-là à la manière dont un enfant qui va naître sort de la matrice maternelle. Mais la plupart du temps, cette matrice est la matrice d'une marâtre. Alors, la raison pour laquelle ça ne va pas, ça se passe dans les difficultés. Et seulement, ce qu'il faut comprendre, je reprends une formule que vous avez peut-être utilisée déjà une fois, c'est que la plupart du temps, cette matrice devient marâtre parce que l'enfant ne veut pas naître. Alors, ce qui se passe, c'est que l'enfant qui ne veut pas naître empoisonne la mère, qui empoisonne l'enfant, qui empoisonne la mère, ça s'appelle les grandes crises d'antisémitisme à la fin des périodes d'exil. Pourquoi ? Mais le verset nous l'explique. Parce qu'il y a deux obstacles. D'abord, l'enfant ne veut pas naître. Et ensuite, la mère ne veut pas le laisser naître. Et puis, c'est les deux choses à la fois. Et ça retentit, bien sûr. Je vous demande encore une fois de ne pas étudier sur mon visage, étudier sur votre livre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Sinon, je vais arrêter ces cours. Et alors, ceux pour qui je parle savent pour qui je parle. Je ne parle pas pour tout le monde, d'ailleurs. Et n'importe quel rabbin vous dira la même chose. Alors, ceci dit, je reviens au sujet. Il y a une interaction dans cette espèce d'obstacle de l'événement. Mais regardez bien ce qui se passe dans le verset. C'est que l'ordre, l'ordre de la difficulté, ça vient d'abord des Bnei Israël et ensuite du Pharaon. Ça vous éclairera un peu mieux, d'une part, le récit que la Torah nous donne à propos des événements de la sortie d'Égypte, mais, et d'autre part, ce qui s'est passé de notre temps, à la fin de l'exil de ces 2000 ans dont nous sortons avec l'État d'Israël, et en relation évidemment avec tous les événements de persécution qui ont commencé il y a une centaine d'années, et le retentissement qu'il y a dans la réciprocité de la responsabilité entre le peuple juif et ses persécuteurs, les persécuteurs et le peuple juif, et toute cette énorme chose qui s'est passée et qu'on appelle la Shoah, mais qui n'a été que le point culminant d'un processus qui commence il y a à peu près 150 ans en Europe. Bien, et alors, voilà donc ce que ce verset va introduire, ce dénombrement dont je vous parle, et je vais poser la question immédiatement tout à l'heure. Et les Rachevenet Betawatam, voici les chefs des maisons paternelles, des enfants d'Israël dont on vient de parler. Les Otsi et Bene Israël, Meret Israël, et les Rachev et Avotam. Alors, je vous lis tout le texte jusqu'au moment où la question va se poser à Ben et Réhouven, les descendants de Réhouven, Bechor Israël, premier-né d'Israël, Hanoch Ufalou, Hezron et Charmi, ce sont les noms des grandes familles, et les Mishperot Réhouven, ce sont les familles de Réhouven. Umne Shimon, Yemuel Veyamin, Orad Veyachin, Vetzoa, Veshaoul, Benakenahanin, je n'explique pas les détails, et les Mishperot Shimon, ce sont les familles de Shimon. Vele Shemot Ben Lévi, et voici les noms des fils de Lévi, les Tov et Dotav, selon leur engendrement. Selon leurs engendrements, c'est un pluriel. Et vous voyez que la formule a changé. Dès qu'on arrive à la tribu de Lévi, la formule est beaucoup plus précise. Parce qu'il va s'agir de l'ordre même des engendrements. Alors, Gereshom, Uka, Dumrari, Ushne, Haï, Lévi, et les années de vie de Lévi, et le chef de la tribu de Lévi, il s'appelait Lévi, Sheva, Ushoshi, Mome, Hashana, 137 ans. Bene, Gereshom, Livni, Veshimei, Nemishperota. Je vous signale ce nom de Livni. Il y a eu de notre temps un des grands maîtres d'Israël de la génération, était un des élèves du Rav Kook. C'est un Français qui s'est converti au judaïsme et que vous connaissez certainement, qui s'appelait Abraham Livni. Il a commencé au Maroc et il s'appelait Leblanc. Alors quand il a cherché à traduire son nom, il a pris Livni. Veshimi, les Mishmotam, selon leur famille. Ouvne Kerat, descendant de Kehat, Amram, c'est le père de Moïse de Haar. Amram, Veitzhar, Vechevron, Veruziel, Ushne Chaye Kehat, et les années de vie de Kehat, Shalosh, Ushloshim, Machana, 133 ans. Ume Merari, les enfants de Merari, Machli, Mouchi, Ele Mishpechot, à Lévi, les Toyotam, voici les familles de la tribu de Lévi, selon leurs engendrements. Vaïka Amram, et Amram prit, suivez bien, et Yochevet Dodato, Yochevet sa tante, Loleisha, pour lui, pour femme, va Teledo, elle lui enfanta, et Aaron vet Moshe. Aaron et Moïse, vous voyez que Aaron est cité avant Moïse parce qu'Aaron était l'aîné de Moïse. Vous savez cela. Noterez qu'il n'y a pas allusion à Myriam. Ça va faire partie de la question qu'on va se poser tout à l'heure. Ushnechaya Abraham et les années de vie de Abraham, Sheva Ushoshi Umashana, 137 ans. Umne Itzar, les descendants, les fils de Itzar, Korach, Vanefeg, Bezichri, Umne Auziel, Mishael, Veltafam, Bezitri, Vaikach Aaron et Elisheva. Et Aaron prit Elisheva bat Aminadav, fille de Aminadav, je suis vraiment désolé de ce divers. Achot Narchon, Noleisha, sœur de Narchon, pour lui, pour femme. Là, petite parenthèse très rapide, la Torah tient à mettre en évidence le nom de Elisheva, qui est la femme de Aaron, mais par ce biais, elle cite son frère Narchon, ben Aminadav, parce qu'il va jouer un rôle très important à la sortie d'Égypte. Lorsqu'on arrive au dernier obstacle qui se place contre un obstacle, si vous voulez, de la sortie d'Égypte, c'est le moment du passage de la mer Rouge. Peut-être vous aurez l'occasion de l'étudier à la page de Vaïchlar. Eh bien, les Hébreux se trouvent dans une impasse totale. Devant, il y a la mer. Derrière, il y a l'armée égyptienne qui se lancent à leur poursuite. Et au niveau des lois de la nature, le salut est impossible d'envisager un salut quelconque. Moïse entreprend de prier, et Dieu dit à Moïse, ne prie pas. Ce n'est pas le temps de la prière, je paraphrase en servant des sources des commentaires. Daver et la Ram, Bissab, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Je vous ai expliqué ce que le Midrash enseigne à propos de cette scène qui est très importante. Voilà, le Midrash va dire qu'il y a eu quatre parties qui se sont apparues dans le peuple d'Israël. Ça ressemble énormément aux quatre parties permanentes à travers lesquelles la société pays se divise, chaque fois qu'il y a des moments où il faut prendre une grande décision pour la survie d'Israël, c'est un peu ce qui se passe actuellement dans la société israélienne, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les uns proposent de se préparer à la guerre, les autres proposent de se préparer à la prière, les autres sont découragés et veulent retourner en Égypte, et les troisièmes, je ne sais plus, qui se rappellent, moi, les quatrièmes, je dis un, la prière, de la guerre, trois, le, ah oui, et le quatrième sont prêts au suicide, à se jeter dans la mer pour se suicider. Et puis, ça s'étudie dans le texte, vous verrez quand vous arriverez à la parachute de Vayishlach, Dieu s'adresse à Moïse, et pour dire, parce que Moïse voulait se mettre à la tête de ceux qui demandaient qu'on l'en prie, et Dieu s'adresse à Moïse pour dire, c'est pas le temps de la prière, parle au peuple et qu'il avance. Une petite explication sur ce midrash qui est très important. Les quatre attitudes, je ne dirais pas qu'elles sont légitimes, mais elles sont, si vous voulez, objectivement naturel. Chaque fois qu'il y a une confrontation d'une société en tant que collectivité avec un destin de survie, on s'aperçoit qu'il y a ces quatre types de réactions. Or, le problème, c'est qu'il y a division, chacun choisissant une stratégie indépendamment de l'autre. Si les quatre stratégies étaient vécues ensemble, alors il n'y aurait pas de danger. Et les quatre stratégies étant vécues ensemble se modifient chacune d'entre elles. C'est quand elles sont séparées l'une de l'autre qu'elles deviennent nocives et inefficaces. Je vais inverser, inefficaces parce que et même nocives. Bon, je vous donne un exemple et après je reviens à ce midrash. C'est lorsque Jacob a rencontré Ésaü. Le Talmud, son frère Ésaü, il voulait. Ses rencontres avec le frère qui est un faux frère, ça me rappelle un verre de Musset. L'étranger qui lui ressemble comme un frère. Je sais pas rappeler de ça. Vous savez de qui je veux pas parler. Eh bien, je ne parle pas de Musset. Je parle de l'étranger qui ne ressemble pas comme un frère. Eh bien, alors le Talmud explique que Jacob se prépare à trois stratégies. La prière, la guerre et les concessions. Et alors, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Une partie du peuple préfère prier et se taire. Une autre partie préfère se préparer à la guerre. Et une troisième partie sont prêts aux concessions jusqu'à la concession perpétuelle. Mais le défaut de chacune de ces trois stratégies, c'est quand elles sont isolées. Si c'est les trois à la fois, elles sont efficaces. Pour Jacob, ça a été efficace parce que Jacob était lui seul capable de ces trois stratégies à la fois. Je ne sais pas si c'est clair. Alors rassurez-vous, ceux qui connaissent bien la société israélienne savent qu'il y a le courant central, celui qui ne fait pas de bruit dans les médias, qui lui est capable de toutes les stratégies à la fois. Et les médias ne parlent que des courants isolés, les marginaux, qui chacun d'entre eux ne représente qu'une des dimensions de la réaction du peuple d'Israël. Depuis la sortie d'Égypte, c'est le même problème. Et alors, à ce moment-là, Dieu dit à Israël, Dieu dit à Moïse, je ne peux pas intervenir, donc ce n'est pas la peine de me prier, parce que, ici je vous une parenthèse, c'est vrai, c'est une parenthèse, parce que il n'y a pas un surplus de mérite pour Israël vis-à-vis de ses ennemis. C'est moi qui interprète, hein, ce n'est pas les mots exacts du Midrash. Pourquoi ? Le Midrash dit ceci. Au moment où Dieu s'apprête à intervenir pour sauver Israël de l'armée égyptienne, et d'ailleurs chaque fois que je parle ça m'arrive avec des chrétiens, je leur dis que nos ancêtres avaient beaucoup de chance. Ils n'avaient que l'armée égyptienne derrière eux. Donc pour nous, mais à tous, ensemble. Et alors, la mer, c'est la mer, mais les armées sont multipliées par 7. Et alors, quoi qu'il en soit, l'ange tutélaire de l'Égypte intervient et dit pourquoi Dieu est complaisant vis-à-vis d'Israël, le peuple élu. C'est le thème du peuple élu, entre guillemets, c'est pas un thème traditionnel. Mais je vous signale en passant, mais j'utilise le vocabulaire de la civilisation extérieure. Cette expression, le peuple élu, vous la trouvez jamais dans les textes traditionnels juifs. Je ne vais pas prendre du temps pour l'expliquer, mais ça vous fera un sujet de réflexion jusqu'à ce qu'on en rencontre un jour dans l'étude. Je voudrais simplement vous citer une expression d'un de mes amis, d'un de vos amis d'ailleurs, qui est André Chouard, qui a dit un jour, que ce peuple, ce soi-disant peuple élu, la plupart du temps, il est en ballotage. Et vous savez que ça veut dire être en ballotage, être balloté. En tout cas, pour revenir au sujet, ça c'est une invention de la théologie chrétienne. Parce que ça voudrait dire qu'il faut mériter l'élection. Alors qu'il s'agit de tout à fait autre chose. En tout cas, je reviens au... c'est un peuple où il y a peu d'appelés, mais beaucoup d'élus, si j'ose dire. Juste l'inverse que j'ai dit. Et alors l'ange de l'Égypte intervient. C'est un message très difficile. Et évidemment, par la suite, on s'apercevra que Israël peut être capable d'idolâtrie, Israël peut être capable des défauts qu'on peut rapprocher aux Égyptiens. Et on voit d'ailleurs la très nouvelle législation israélienne et on s'aperçoit que les mœurs égyptiennes, c'est en plein au bagatz. Vous avez remarqué, accrochez-vous à l'Égypte. C'est pire que les mœurs égyptiennes. Parce qu'en Égypte, c'est pas légalisé. Alors qu'Israël, c'est des mœurs égyptiennes, mais en Égypte, c'est pas légalisé. Alors que le gouvernement, notre gouvernement actuel, se paye le luxe de légitimer. Bon, c'est une des raisons qui font que la situation est si difficile actuellement. Pas seulement le problème de notre temps politique, mais surtout le problème du régime qui devient un régime dictatorial et le problème de la tension avec la tradition juive elle-même. C'est nouveau, c'était latent, ça ne devient grave que récemment. Récemment, vous savez depuis quelles élections, le peuple est... Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, voilà que l'ange de l'Égypte intervient. Il y a qu'à effectivement lire les annales de la Knesset, du Parlement, pour savoir que l'ange de l'Égypte, Sarge d'Israël, aurait raison de dire, mais de quoi vous parlez? Cela sent comme ça. Et regardez comment ça sent ça. Ça reste comme ça, regardez comme ça. Alors donc, Dieu dit à Moïse, il n'y a pas de surcroît de mérite. Si vous arrivez à acquérir un mérite supplémentaire, alors je peux intervenir. Et ce mérite, c'est la émouna. Parce qu'il fallait avoir une émouna en béton armé pour pouvoir se décider. Devant, il y a la mer, l'obstacle de l'eau de la nature. Derrière, il y a l'armée, la force de l'ennemi. Et pour nous, c'est le monde entier, c'est armée égyptienne, ce qu'il y a derrière. Et de dire, on y va quand même. Alors le verset c'est Daver et la âme et Issaou parlent au peuple qui s'avance. Un a eu le courage de se jeter dans la mer, il a ouvert la mer pour tous les autres. Il s'appelait Nachshon ben Aminadab. C'est ce Nachshon que fait le plan de verset. Et c'est quoi en hébreu moderne, en hébreu israélien, pour dire, comment on peut dire ça en français, ça m'échappe, c'est ces avant-gardes qui défrichent, qui déchiffrent. On les appelle les Narchonim. Vous avez certainement ceux qui parlent déjà l'hébreu israélien entendu cette expression. C'est plus que les pionniers, c'est plus que les pères fondateurs. C'est les. Il y a sûrement un mot en français. Non, c'est plus que ça. Oui, quelque chose comme ça. Les premiers de cordée. Les Narchonim. Bon. Vatel et de l'eau, et Nadav et Abihu, et il enfanta, je continue le verset. Nadav et Abihu, et Lazav et Itama. Où venez Korar? Asir ve'el kana ve'abiyasav, ele mishpot ha'korhi, ve'el'azav ben Aharon, nakachlo v'ibnot putiel, lo le'isha, v'atel edlo et Pinchas, ele rashi avot ha'levihim et mishpotam. On énumère, on entreprend, semble-t-il, l'énumération du dénombrement des tribus d'Israël à partir de la tribu du fils aîné, Reuven. Après Shimon, on arrive à Lévi, c'est très en détail, on met en évidence des noms importants comme Narchon, comme Pinchas, qui va jouer un grand rôle par la suite. Verset 26, « Où Aaron et Moshe ?» Il s'agit de, c'est lui, Aaron et Moïse, « Asher Amar Hashem Lahem » à qui Dieu a dit, « Otsi ou Edeni Israël, Melech Israël, Al Tzivotam » Faites sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, Al Tzivotam, en rang de colonne militaire. Tzivot, comme on dit ça en français, ça m'échappe. En ordre de combat. Comme ça qu'on disait dans quel corps tu as fait l'arbitre. Tu étais dans l'Espagne. Alors, en ordre de compte, je continue, verset 27. Hé, Mamdabarim, c'est eux qui parlaient, qui parleront, ceux capables de parler. Elle parle au pharaon, Mère Mitzraïm, roi d'Égypte. Les hôtiers de Israël et Mitzraïm, pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Où Moshe et Aaron. Lui, Moïse et Aaron. verset 28, Vaï, Biyom, Diver Hashem El Moshe, Beret Mitzrayim, et il arriva, lorsque, à partir du jour où Hashem parla à Moïse en pays d'Égypte, et commence le récit de l'intervention de Moïse et de Aaron chez le Pharaon et chez les Hébreux. Bon, et là s'arrête le dénombrement. Alors voilà, je vous ai lu le texte, la question qui apparaît, pourquoi la Torah arrête le dénombrement en plein milieu? S'il s'agissait de dire qui est Moïse et Aaron, eh bien, la formule aurait pu être autre, mais pas forcément ce dénombrement qui apparemment devrait être exhaustif, mais qui s'arrête à Moïse et à Aaron. Vous avez compris la question? Qu'est-ce qui pourrait suggérer une réponse d'après ce qu'on vient de lire? Après, je vous donnerai un autre texte qui éclaire un peu. Revenez au premier verset que j'ai lu. Et le verset 13. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, Vaïsavem el Bene Israël. Et Hashem parla à Moïse et à Aaron, Vaïsavem el Bene Israël. Et il les prescrit, ordonna, commanda pour les enfants d'Israël et pour le Pharaon. Alors, une explication simple consisterait à dire là, il a la nécessité d'identifier Moïse et Aaron, parce que jusque-là, on n'en a parlé que incidemment. De les identifier du point de vue des engendrements d'Israël. Pourtant, c'est un sujet facile pour vous. Qui peut suggérer une idée? Vous avez bien suivi le texte et la question, c'est simple comme problématique. Oui, mais alors pourquoi il commence? Vous pouvez expliquer qui sont Moïse et Aaron sans insérer cela dans un dénombrement.
On peut imaginer peut-être que quand le dénombrement s'arrête à Moïse et Aaron, en lisant ce qui précède, on voit avec leurs enfants. Et là, on peut peut-être évoquer l'hypothèse que si le dénombrement s'arrête là, c'est parce que les enfants de Moïse n'étaient peut-être pas à la hauteur. Peut-être.
Non. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai, mais c'est indiqué d'autre part, dans un tout autre contexte. Ça ne se réfère pas à ce contexte-là. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, vous avez dû remarquer à deux reprises, il s'agit d'identifier Moïse et Aaron. Oui, mais pourquoi s'arrêter là? Je veux dire, essayer de comprendre la logique de la question. Sinon, on a. En général, pour bien comprendre la réponse à une question, il faut comprendre la question. Si la question est bien formulée, la réponse est dans la question, toujours. Vous savez qu'il y a deux types de questions. Il y a des questions d'ignorance, alors on demande, j'ai pas compris qu'est-ce que c'est. Il y a des questions d'objection. Alors, les questions d'objection doivent être toujours selon le Inyan, selon le sujet qui est parlé. Et les réponses qu'on avait données sont exactes pour elles-mêmes, c'est-à-dire c'est les connaissances qu'on a d'autre part, mais ça ne se rattache pas au Inyan, ça ne se rattache pas au sujet. Il faut comprendre la cohérence, la logique de la question elle-même. Bien, et je vais simplifier la question. S'il s'agissait de nous identifier Moïse et Aaron, eh bien, il était possible d'avoir une forme de texte beaucoup plus simple, identifiant Moïse et Aaron, mais pas ce que nous avons là, cette problématique qui commence à entreprendre les dénombrements systématiquement depuis Réhouven, mais qui s'arrête à Moïse. On pourrait dire qu'on a cité tous les personnages importants pour la sortie d'Égypte, et on s'est arrêté là, mais non, dans le reste des tribus d'Israël, il y a d'autres personnages tout aussi importants.
Et ceux-là sont en danger.
Comment ?
Ceux-là sont plus en danger.
Mais quel rapport avec ma question ? Vous sortez encore de la cohérence de la question. Bon, alors j'arrête là. Parce que sinon, on va prendre du temps pour rien.
Vous avez dit tout à l'heure que Dieu ouvrait ses sujets et que peut-être que Moïse et Aaron n'étaient pas encore en mesure d'être jugés.
Mais pas du tout. C'est tout le contraire. Vous voyez, vous réfléchissez par association d'idées. Il faut réfléchir en cohérence de logique. C'est très bien que nous sommes dans un temps culturel où la l'éducation fait l'impasse sur l'enseignement de la logique. Je dis ça souvent. Moi, j'ai fait partie d'un temps où on enseignait la rhétorique, qui est la science de la logique. On enseignait la sophistique, la logique formelle. Tout ça, ça n'est plus dans les programmes des lycées ou des universités, sauf pour des érudits très spécialisés, ça manque. Vous voyez, vous mettez en relation des notions qui n'ont aucun rapport avec la question posée. Alors, c'est pour ça que j'arrête là, parce que sinon on va perdre une heure pour rien. Simplement, je vous demande de réfléchir à cela, en vous indiquant un autre texte que vous suivrez dans la page la semaine prochaine, peut-être, si Pierre Simsoï, qui fera le cours à ma place la semaine prochaine, parce que je suis obligé de partir à un congrès, choisis cela, mais prenez le chapitre 12 dans la page à debout. Non. Cherchez tous les commentateurs, moi j'ai pas trouvé. Alors, prenez dans la paracha de Beau, nous avons une étude. C'est quoi? Mais c'est pas les générations avant. Et pourtant, j'ai pris suffisamment de temps pour définir la question. En tout cas, ceux qui ont compris, ont compris. On ne va pas prendre trop de temps pour ça. Alors, vous allez prendre les premiers versets du chapitre 12. Alors, dès que vous avez la référence, je vous lis. Je remarque de plus en plus, d'ailleurs, que, et c'est une imprudence de ma part, de poser des questions, parce que si on avait le temps, bon, ça vaudrait la peine. Mais comme vous réalisez par association d'idées, je crois que c'est ça le problème. Ce qui manque, c'est les articulations logiques. Au fond, ce qui nous manque, c'est d'avoir fait du Talmud. Parce qu'on fait des années de Talmud, alors on sait raisonner. Mais quand on ne sait pas raisonner, avec le tambour qui résonne, hein, ça fait du bruit. Bon. Alors, prenez le chapitre 12. Prenez le chapitre 12. Non, mais non, je vous conseille très sincèrement d'étudier un peu de Talmud, vous verrez qu'est-ce que ça veut dire raisonner, qu'est-ce que ça veut dire étudier de façon cohérente. Vraiment, ici, on fait du midrash, c'est pas le Talmud. Mais quand même, on ne peut pas étudier s'il n'y a pas une mise graine. Est-ce que vous avez fait du latin dans vos études? Qui a fait du latin? En tout cas, ceux qui ont fait du latin comprennent de quoi je parle. Est-ce que c'est clair? Ceux qui ont fait du grec comprennent quel est le danger. Le grec, c'est une langue poétique, alors que le latin, c'est une langue d'une cohérence rationnelle absolue, c'est une langue de comptable, c'est une langue de romain. Et, alors, si vous n'avez pas besoin de faire du Talmud, faites du latin au moins. Vous rigolez? Ça manque. Les Français qui n'ont pas fait de latin, ils ne comprennent pas le français. Bien, alors, que j'arrive à mon chapitre. C'est bien le chapitre 12. Oui. Voilà. Alors, vous prenez au premier verset. Je vais vous donner une autre indication, retenez-la bien, et réfléchissez par vous-même. Si quelqu'un trouve une réponse, je vous promets qu'on la formulera en hébreu, on l'éditera. C'est un chidouche qu'on attend depuis 2000 ans. Alors, on lit ensemble. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moïse, Ve'elaon et Aaron, Beret Mitzrayim lemor, dans le pays d'Égypte, en disant, en ces termes. Regardez, là, il y a une particularité que je ne vais pas étudier. Il faudrait s'attendre à Vaidaber Hashem el Moshe, Ve'elaon et Mitzrayim lemor, mais il y a Vayomer lemor. C'est une particularité, mais ça nous prendrait trop de temps. La première des mitzvot qui est donnée à Israël, la Torah d'Israël, il y a eu quelques mitzvot qui ont été déjà données depuis le premier homme jusqu'au patriarche. Mais ces mitzvot ne prennent force de loi, même les mitzvot données au patriarche ne prennent force de loi comme obligation, comme commandement pour Israël qu'à partir de la révélation du Sinaï. Mais la première des mitzvot donnée à la sortie d'Égypte, donc qui fait partie de la Torah de Moshe, c'est ce verset-là qui institue l'ordre nouveau du calendrier à partir de la sortie d'Égypte. J'explique très rapidement, c'est pas le sujet vraiment. Nous avons une première période, ça j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure, première période dans l'histoire d'Israël, qui est la période des pères, depuis Abraham jusqu'à Moïse, la période des Avot. Et trois Avot, c'est Abraham, Isaac et Jacob, et cette période des Avot d'Israël, dans l'être père d'Israël, je dirais ce que c'est, va jusqu'à la sortie d'Égypte. C'est à partir de la sortie d'Égypte qu'Israël, c'est les Bnei Israël, les fils d'Israël, et se constituent en collectivité de la descendance des Avot. Retenez bien cela, parce que c'est une donnée qui a pratiquement disparu de l'étude, je ne sais pas pourquoi. Sans cette clé-là, on ne peut pas comprendre beaucoup de choses dans la Torah. Lorsque Dieu s'adresse aux Avot, il ne s'adresse pas dans la dimension du commandement, de l'obligation à réaliser une mitzvah. Il s'adresse dans un projet de promesse qui concerne précisément la descendance des Avot, la descendance des pères, lorsqu'elle se constituera en société, en collectivité. Nous avons une première partie de la révélation au Père, c'est des révélations de promesses. Tandis que la révélation au Fils, c'est la révélation de la loi. Et ce qui explique l'importance de ce verset qui revient souvent, « Daber el bene Israël », parle aux enfants d'Israël. C'est-à-dire la révélation de la loi concerne les enfants d'Israël en tant que collectivité, en tant que peuple, en tant que société. Alors que la révélation de Dieu au Père nous dépasse infiniment. L'être Père, l'identité Père nous dépasse infiniment. C'est l'identité des patriarches. Et Dieu se révèle à eux dans une toute autre dimension. C'est la dimension de la Mida. Alors que c'est des fils, c'est la dimension de la Mitzvah. Je vais expliquer ce point. C'est-à-dire la collectivité d'Israël comme peuple, et donc chaque individu à l'intérieur de la société, réalise la parole de Dieu en réalisant des commandements d'obligation. Tandis que ces mêmes valeurs sont transmises au patriarche dans la dimension de midot, de qualité, de vertu. Mais les pères ont vécu d'après la Torah. Les pères, quand on dit les pères, c'est les avot. On dit en français les patriarches, j'aime pas ce mot-là parce que ça renvoie à l'idée de vieillard, alors que le mot de père en hébreu, ça veut dire les engendreurs, ceux qui font les fils, alors que patriarche, ça veut dire les grands-pères, c'est tout à fait autre chose. Okay. Donc, Abraham à sa manière, Isaac à sa manière, Jacob à sa manière, chacun d'entre eux était le juste de trois vertus différentes. Abraham la vertu de Chesed, Isaac la vertu de Dîn, et Jacob la vertu de Emet, chacun à sa manière ont vécu d'après la Torah, mais c'est leur manière d'être, c'est leur vertu.